professeur de philosophie qui a longtemps enseigné au Mariste à Lyon, qui est à lui-même une institution lyonnaise, puisque non seulement il a enseigné au Mariste, mais il a été le professeur de la plupart des actuels professeurs des Maristes, de l'actuel directeur des Maristes, et c'est quelqu'un, voilà, que j'admire énormément, justement parce qu'il a toujours eu le souci de former et de penser à la succession. Ça, c'est des choses qui viendra après. Dans un monde très individualisé, où même quand on pense le bien commun, on le pense dans l'instant présent, on ne pense pas beaucoup à l'avenir. Voilà, c'est un homme d'avenir pour de bon. Alors, il a fondé aussi, tout jeune déjà, à 22 ans, alors qu'il était professeur déjà, et qu'il avait déjà deux enfants, il a fondé le centre Kierkegaard, aussi pour former en plus des cours qu'il donnait. D'ailleurs, il faisait en plus du centre Kierkegaard et des cours, il faisait des petits déjeuners philosophiques à 6h du matin, pour ceux qui, voilà, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas l'empêcher d'enseigner, quoi, très tôt. Et puis il a fondé une très belle institution lyonnaise qui s'appelle le Collège supérieur, voilà, où on donne des cours et où on prépare aussi au concours. C'est là qu'il m'a accueilli alors que j'avais sorti mon tout premier livre, Et les violences en part, on pense autour de 2001, voilà, quelque chose comme ça, voilà, 2001. 2000-2001. Et c'est une des premières personnes. Un aîné, une figure, quoi, qui a vu que le jeune con que j'étais avait peut-être quelque chose à dire, et donc il m'a presque inventé, voilà, il m'a inventé, puisque j'ai fait mes premières conférences comme ça au collège supérieur.
Fabrice n'a d'ailleurs pas traité le sujet qui était prévu.
Je m'en souviens pas. En fait, si ça se trouve, je n'ai jamais su le sujet jusqu'à présent. Donc, on se connaît depuis longtemps. On se retrouve généralement presque une fois par an, enfin au moins une fois par an, pour faire une conférence chez l'un ou chez l'autre. Et alors, j'ajoute, hein, que il a su aussi passer merveilleusement la main, puisque le nouveau directeur Collège supérieur est aussi quelqu'un de remarquable. Et puis alors, il a écrit quelques livres. C'est pas le livre, c'est, il pourrait écrire, il écrit très bien, mais il n'aime pas trop le faire, il faut le forcer. Il a amené quelques exemplaires de ce petit livre qui est vraiment très bon.
Vous voyez que je n'embarrasse pas les bibliothèques.
Voilà. Donc je vous recommande la lecture. On vous le vendra au prix de 9 euros ou 10 francs. Voilà. On en prend déjà un pour la bibliothèque. On en prend un deuxième. Non, mais c'est pour qu'on puisse le voir dans la bibliothèque. Vous en mettez 2-3 pour qu'il apparaisse. Voilà, sinon, il n'apparaît pas dans les rayonnages. Voilà. Voilà, j'avais beaucoup aimé ce petit livre, et puis j'aime bien le sujet du plaisir, enfin j'aime encore mieux la chose, donc c'est pour ça que j'ai proposé à Jean-Noël de venir nous parler. Il vient aussi à Fribourg parce qu'il va donner cours aux moines d'Autrive à partir de demain, sur son tout dernier livre qui est un livre plutôt de philosophie, ou un essai de philosophie ou théologie politique, qui s'intitule « Pour une alternative catholique », que nous avons aussi. Ah ben voilà, celui-là qu'il faut que tu achètes. Hein, voilà. Enfin, moi je l'ai. Donc voilà, « Pour une alternative catholique ». Donc ça aussi, c'est un livre que je vous recommande, en tout cas, pour tous ceux qui s'intéressent à ce sujet-là de la politique, ceux qui auront un mémoire. Il n'y en a pas beaucoup de mémoire sur ce sujet cette année, mais Jean-Noël, je vous
écoute. Merci. Merci. Merci Fabrice de m'accueillir et de renouer ainsi avec une amitié déjà si ancienne et qui m'apporte beaucoup. Donc la présentation de Fabrice a dû vous faire comprendre que je suis essentiellement et avant tout un professeur. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui éprouve tellement de joie à faire de la philosophie que je me demande comment les autres peuvent s'en passer. Et du coup, je vais leur dire, mais tu sais, c'est... Alors, je ne vais peut-être pas parvenir ce soir à vous faire partager ce plaisir, mais je vais au moins en parler. Et donc, là, ce soir, il va être question du sens du plaisir. Cette question, en vérité, n'a rien d'évident, puisque le plaisir est apparemment, dans l'opinion, ce qui donne sens à tout. Alors, s'il faut que ce qui donne sens à tout ait lui-même à répondre d'une signification qui le précéderait et l'appellerait, ça serait aller loin dans la régression à l'infini, qui que l'opinion arrête à... Après tout, puisque ça lui fait plaisir, après tout, chacun prend son plaisir où il peut, chacun prend son pied comme il peut, etc. Et donc à la fameuse chaîne des « pourquoi fais-tu ça ? Pourquoi, 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 pourquoi ?» le terminus c'est bah, « parce que ça me plaît, éventuellement on rajoute, c'est parce que je suis comme ça. » Et c'est la raison pour laquelle le plaisir, comme d'ailleurs la force, est le point sur lequel s'appuie celui qui ne veut pas répondre de ce qu'il pense devant les autres et surtout pas devant la philosophie. Les philosophes sont hommes qui aiment discuter. Et en vérité, quand ils discutent d'une... Il n'y a pas moyen que je sois éclairé sans la rampe ou non c'est un peu ou alors faut que j'avance
non mais ce que vous pouvez faire c'est que vous avancez
voilà
là.
voilà
là c'est mieux non
voilà c'est mieux ouais parce que sinon c'est un interrogatoire de police bon
non on peut enlever
non c'est très bien voilà comme ça c'est bien je vous vois ce qui est quand même mieux que d'être aveuglé. Oui, donc je disais que les philosophes entre eux aiment discuter, mais au fond, ils sont d'accord, même s'ils ont des théories qui les opposent, même s'ils se trouvent adversaires sur le plan politique, sur le plan spirituel, il y a une amitié. La philosophie nous a appris Socrate, c'est l'amitié, elle commence par l'amitié. Elle finit dans l'amitié et quand je discute les thèses de Marx, de Nietzsche, de Spinoza, de quiconque, de Descartes, je le fais toujours dans l'amitié. Et alors le philosophe aimerait bien discuter avec le non-philosophe. Bon, le non-philosophe, il n'en a aucune envie. Et c'est la raison pour laquelle le philosophe se demande... Comment le non-philosophe est possible ? Comme je le disais tout à l'heure, mais comment peut-on vivre sans faire de la philo, quoi ? Et le non-philosophe, pour clouer le bec à son interlocuteur, en général, recourt soit au plaisir, soit à la force. Et peut se permettre d'exhiber ainsi ses contradictions, qui sont une manière de réduire l'interlocuteur au silence, puisque le plaisir n'a à répondre, apparemment, ni de sa moralité, ni de sa qualité. Il n'y a pas de différence de plaisir entre manger des chamallows ou un mets exquis. Il n'y a pas de différence de plaisir entre admirer une photo de calendrier ou une fresque de Fra Angelico. Et donc le plaisir n'a lui-même, étant finalement... le terminus de toutes les interrogations, n'a à lui-même à répondre d'aucun critère, d'aucun jugement, puisqu'il est au principe de tous les jugements et que ainsi il cloue le bec à tout effort de réflexion. Donc, si nous voulons réfléchir sur le plaisir ce soir, il faut commencer par lui ôter de son évidence et montrer que le plaisir est une réalité beaucoup plus ambiguë qu'on ne le croit quand on hausse les épaules et qu'on dit après tout, chacun prend son plaisir comme il veut. En particulier, une des manières d'être reconduit à l'ambiguïté du plaisir, c'est de s'interroger sur sa tristesse, C'est une expérience universelle des hommes que le plaisir puisse être triste et que même il s'accompagne assez souvent de cette tristesse. Comment comprendre son association si fréquente avec la mort, avec la fascination même de la mort, ne serait-ce que dans le plaisir charnel, nous aurons des divans profonds comme des tombeaux, mais dans les addictions de toutes sortes, dans les conduites à risque, et donc c'est la même fascination, semble-t-il, qui s'exerce pour le plaisir et pour la mort et l'abîme qui s'ouvre devant nous. Donc on peut déjouer les fausses évidences du plaisir. C'est d'ailleurs ce à quoi Socrate s'est efforcé en recourant au grand scandale de ses interlocuteurs, à l'exemple de la démangeaison. Alors ses interlocuteurs lui disent « Mais t'as pas honte, Socrate, de parler de choses comme ça ? Nous voulons parler de choses plus nobles. La démangeaison, c'est vraiment un sujet de peu d'apparence. » Et cependant, Socrate montre bien que la démangeaison manifeste que le plaisir est souvent dans une sensation exaspérée, oscillant entre le manque et la satisfaction, oscillant entre la douleur et la jouissance, puisque quand je me gratte, la douleur et la jouissance coïncident. Et la coïncidence, d'ailleurs, me rend de plus en plus frénétique. Et donc, je vais aller me gratter jusqu'à la douleur avec une jouissance qui ne se terminera pas. Et Socrate prend d'autres exemples pour montrer qu'il y a une contiguïté indiscernable de la douleur et du plaisir. Il dit par exemple... Et pour avoir plaisir à boire, il faut avoir soif. Et donc, si j'ai soif, je manque de plaisir, j'éprouve une peine. Et qu'est-ce qui se passe au moment où je bois, où je suis simultanément dans la soif et la satisfaction en une coïncidence tout à fait indiscernable ? Car boire sans soif n'est pas un plaisir. Il faut bien penser que ces deux réalités peuvent être coïncidentes. Cela nous permet de reconduire ainsi le plaisir à son ambiguïté. Cela nous permet de penser que, quelque chose d'assez simple, c'est que le plaisir est une émotion. Bon, au moins, vous voyez qu'on assure des conclusions simples au début, à la fin aussi d'ailleurs. Une émotion, c'est-à-dire... la mobilisation de tout l'être dans une situation qui est une mise en crise. Toute émotion est une sorte de mise en crise, c'est-à-dire que toute émotion, quelle qu'elle soit, est une perte, est un abandon du rapport de domination avec le monde, du rapport pratique avec le monde, celui qui me permettrait de tirer des plans, celui qui me permettrait d'avoir une estimation de la chronologie devant moi, que ce soit la peur, que ce soit le plaisir, que ce soit la souffrance ou le désir, l'émotion est toujours donc cette mise en crise totale du sujet qui perd sa position de stabilité et de domination que requiert ordinairement l'action. Il n'est pas bon d'être ému quand on conduit. Il faut éviter les scènes de ménage quand on conduit, il faut éviter d'admirer le paysage, il faut éviter d'être en colère, etc. Toute conduite pratique exige la maîtrise des émotions et de refermer quelque peu l'éventail des sensations. Et c'est ce à quoi contribue efficacement toute technique, toute méthode à refermer l'éventail des sensations. Au contraire, une émotion ouvre cet éventail et crée donc une espèce de titubation, nous chancelons dans cette expérience de l'émotion qui fait que on ne peut plus penser le monde sur le mode de la domination calculante. C'est pourquoi Sade est fastidieux et stupide, puisqu'il essaye de faire une espèce d'économie ou de technique et d'organisation des jouissances. C'est vraiment besogneux. Et il y a une chose assurée sur laquelle nous revenons, c'est que le plaisir n'a vraiment aucune part à cette affaire qui devient un véritable boulot. Et c'est justement, au fond, on peut déjà dire que toute conduite qui tenterait de planifier nos plaisirs, de prévoir nos plaisirs, on le sait bien, les plaisirs que l'on prévoit tombent à plat, manque justement cette expérience fondamentale du plaisir qui est celle donc, que j'appelais d'un bouleversement, d'une titubation, en tout cas de quelque chose qui nous fait perdre la position du contrôle sur nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle nos contemporains sont à la recherche, mais ils ne le trouveront pas, ils sont à la recherche de la jouissance insensible. Ça serait impeccable. La jouissance insensible. Alors celle du séducteur, du professionnel, de tout ce que vous voulez, qui parviendrait, en restant finalement maître de soi, en restant à l'abri de cette expérience bouleversante, à programmer des satisfactions qui relèveraient donc d'une sorte d'économie ou de technique. C'est la raison pour laquelle l'esthète, qui justement essaye de construire une théâtralisation de ses satisfactions, une mise en scène de ses satisfactions, au fond, est caractérisée par son insensibilité, par son indifférence. Et donc, manque l'expérience du plaisir. C'est le modèle du bel indifférent qui justement va manifester sa supériorité se montrant donc inaccessible au bouleversement du plaisir, inaccessible à cette mise en place. Donc, dans un premier temps, il semble que on puisse remettre en question la prétendue évidence du plaisir qui nous clouerait le bec. Nous sommes probablement dans une des expériences humaines les plus ambiguës, si ce n'est la plus ambiguë, au creux, dans le mutisme de notre corps, dans le mutisme de notre chair, dans l'expérience la plus cruciale. Qui d'ailleurs est à l'origine de la plupart de nos malheurs. Qui n'est pas très étonnant une fois qu'on commence par avoir pris acte de la situation de mise en crise qu'est ce plaisir. Alors dans un deuxième temps, je vais essayer avec vous de décrire quelques aspects de cette mise en crise, toujours en suivant les leçons de Socrate, car si vous voulez lire vraiment le grand texte sur le plaisir, ça n'est bien entendu pas mon petit livre, mais c'est dans Platon, c'est entre autres le Philèbe et c'est le Phèdre. D'ailleurs, j'ai sous-titré mon petit livre « Ce que le cheval noir veut dire à son cocher », ceux qui ne comprennent pas le sous-titre, eh bien, doivent lire le Phèdre de Platon, sinon ils resteront devant la nuit de l'ignorance. Voilà, donc je vais suivre de manière très libre la démarche de Socrate, entre autres dans le Philèbe, qui nous met donc en présence de cette dialectique du plaisir comme mise en crise, la situation la plus exemplaire étant donc celle du plaisir esthétique. Premier aspect de cette mise en crise que nous vivons dans le plaisir, c'est celle que Socrate caractérise par la dialectique du limité et de l'illimité. C'est une question qu'on retrouve dans tous les journaux. Le plaisir illimité, dépasser toutes les limites, vaincre toutes les limites, aller au-delà des limites, exploser, s'éclater. Tous ces mots sont des mots qui désigneraient une transgression de la limite. Tout le monde s'éclate. Radio pirate. Or, le plaisir semble être au contraire ce qui est la rencontre même de la limite. Et on le sait. On le sait par des choses très simples que sont par exemple la boulimie. Le boulimique est quelqu'un qui n'a pas de plaisir à manger. Et donc, il est dans une addiction permanente parce qu'il cherche la satiété, il cherche le plaisir. Et ne le trouvant pas, de manière irritée, de manière angoissée en quelque sorte, il cherche le moment où enfin le plaisir lui dira « Voilà la limite que tu as atteinte. » Les neurobiologistes, quand ils prétendent parler du plaisir, quand ils essayent de parler du plaisir, parlent des décharges de dopamine que provoque le plaisir, que provoquerait ce qu'ils appellent le plaisir dans le cerveau. Alors ils en veulent comme témoin, tout le monde connaît l'histoire de ce malheureux rat qui appuie sur une pédale pour obtenir des décharges de dopamine qu'il obtient comme récompense à mesure qu'il appuie sur la pédale. Et ce rat devient complètement fou et incapable de s'arracher à sa pédale, appuyant avec une frénésie de plus en plus grande jusqu'à la mort. Alors après, je vous laisse vous livrer à toutes les expériences plus ou moins autorisées mettant en danger la vie des animaux, mais voilà, en fait, Jean-Didier Vincent ou les neurobiologistes disent que ce rat éprouve du plaisir, mais non, précisément, il n'en éprouve pas. L'addiction, ceux qui fument le savent, l'addiction, c'est le manque du plaisir. C'est la recherche du plaisir. Et c'est cette recherche du plaisir qui fait qu'effectivement, l'addiction ne peut aller qu'en se poursuivant elle-même. J'ai été grand fumeur. Quand j'étais grand fumeur, je rêvais du plaisir que ça serait de fumer une cigarette. J'en fumais 40. Et en fumant 40, je me disais quand même, ce qui serait bien, c'est d'avoir le plaisir de fumer une cigarette. Mais j'ai été privé de ce plaisir par l'addiction infernale, comme l'alcoolique est privé du plaisir de boire, comme le boulimique est privé du plaisir de manger, comme l'érotomane, la nymphomane est privé du plaisir sexuel. Et du coup, va le chercher dans une espèce d'addiction indéfinie. Donc, on peut en retenir une première conclusion de cette dialectique de la limite et de l'illimité, conclusion qui nous servira par la suite, si on la garde en mémoire, c'est que le plaisir, au fond, nous fait longer la limite où la liberté devient destin. Et le fil sur lequel la liberté peut devenir destin. Et c'est justement de cette dialectique de la liberté et du destin à l'intérieur des conduites que joue ou que nous fait jouer le plaisir. Deuxième dialectique du plaisir, celle de l'attente et de la surprise. Il n'y a pas de plaisir par surprise. Il faut que le plaisir soit précédé d'une attente. Et cependant, si cette attente est remplie, il n'y a pas de plaisir non plus. Donc, ce qui fait que le plaisir est essentiellement chose du temps, à la différence du processus technique qui lui est une négation du temps,
Ce qui fait que le plaisir est essentiellement chose du temps, c'est qu'il est dans cette dialectique de l'attente et de la surprise. Lorsque, à Noël, vous avez exactement le cadeau que vous aviez commandé, vous êtes déçu. Manque quelque chose. Il manque quelque chose parce que précisément vous avez ce que vous attendiez. Mais si en même temps vous receviez quelque. Si on vous bombardait, je ne sais quoi, une musique, sans qu'il y ait pour vous une disposition, oui, le spectateur, l'auditeur, commence à se disposer. Se disposant, il attend d'être surpris. Mais il ne serait pas surpris s'il n'attendait pas. Et si il ne se rendait pas, justement, disponible à ce cadeau. Donc là, pour le coup, on peut dire que le plaisir, donc, arrive comme un cadeau, ni prévu, ni imprévu. La meilleure analogie, c'est celle de la mélodie. Une mélodie, nous ne la suivons. Non, la meilleure analogie, c'est cette conférence que je suis en train de faire. Je ne sais pas si elle est un plaisir, mais ceux pour qui elle serait éventuellement un plaisir, c'est ceux qui n'écoutent pas ce que je suis en train de dire, mais qui anticipent sur ce que je vais dire. Alors, ils essayent de deviner, comme quand on écoute une mélodie, on se dit « ça va continuer comme ça, mais il va y avoir ça ». Et puis, de temps en temps, ils sont plus contents qu'ils disent « j'avais trouvé !» Et puis Mozart nous surprend encore. Et au même moment où je préfigurais la phrase suivante, je reçois la surprise avec gratitude, mais précisément parce que je préfigurais. Je n'aurais rien préfiguré, je n'aurais pas de gratitude à l'égard de cette surprise. Et donc la réalité du plaisir est essentiellement mélodique dans cette dialectique de l'attente et du surprise qui est au fond celle du cadeau. Alors ça nous permet une deuxième conclusion de cette dialectique, c'est que cette contiguïté, l'exemple de la mélodie, je crois, convient bien, cette contiguïté de l'attente et j'ai vécu hier un exemple, par exemple, une caresse faite par surprise ne serait pas un plaisir. Ça n'aurait aucun sens. Et hier, j'étais dans un lieu de... Je sais pas pourquoi je raconte ça.
C'est comment c'est avec la caresse.
Oui, non, mais justement, un ami biélorusse dont je n'avais aucune idée qu'il soit là, j'étais en Provence, et tout d'un coup, je vois un grand escogriffe qui se jette devant moi, et fait « waouh !» Et j'ai pris peur. J'avais aucune idée, aucune attente que cet ami surgisse là tout d'un coup. Et mettons que on s'est précipité dans les bras l'un de l'autre. Mais la pure surprise sans attente n'est pas un plaisir. C'est une espèce de choc, une espèce de violence. Et donc. Je ne sais pas si la caresse est vraiment le geste par lequel la main circonscrit la chair. Une caresse dérobée par surprise n'est en rien un plaisir. C'est d'ailleurs développé dans l'opinion actuelle à propos des conduites
de harcèlement.
De harcèlement, voilà, c'est le mot que je cherchais.
Yes.
Alors, on dira donc que donc tous les poètes le savent, cette coïncidence de l'attente et de la surprise, c'est ce qui fait que le plaisir est essentiellement chose du présent. Il est même un mode de la présence, il est une modalité de la présence. Le présent n'étant pas une section de temps isolée, mais étant ce qui précisément retient le passé et ouvre l'avenir, Donc le présent n'est pas un instant découpé dans une hypothétique ligne du temps. Le présent, c'est ce que je suis en train de vivre, et je ne vis ce moment présent, y compris celui que je suis en train de vivre pendant que je vous parle, que dans la mesure où il est traversé d'une attente. Et que cette attente est plus ou moins remplie et surprise. Troisième dialectique que je proposerai pour comprendre cette mise en crise qu'est le plaisir, c'est celle de la fiction et de la réalité. C'est une des questions qui traverse le plus, me semble-t-il, nos contemporains, sans que nécessairement ils le sachent. C'est la question de savoir s'il peut y avoir des satisfactions imaginaires, s'il peut y avoir des satisfactions de l'imaginaire. Alors, c'est un lieu commun ressassé que... Il y a tant de plaisir à rêver, tant de plaisir à imaginer, etc. Dans cette idée qu'il y ait même plus, comme le dit Rousseau, de bonheur à imaginer qu'à percevoir, au fond, il y a un nihilisme inavoué dans cette idée que les véritables plaisirs seraient issus de l'imagination et auraient quelque chose de trompeur, au fond. Car celui qui dit que le véritable plaisir est dans le rêve, c'est une manière pour lui de dire que le plaisir est essentiellement trompeur. Et là encore, c'est là que l'esthète manque à l'expérience du plaisir. Donc vous connaissez tous, dans les dernières pages de la Nouvelle Héloïse, le passage où... remarquez, je vais la retrouver tout de suite. Le livre s'ouvre seul, le feuillet souvent lu, mais celui-ci n'a pas été lu. Voilà, donc c'est la fin de la Nouvelle Héloïse. Rien n'est beau que ce qui n'est pas. On jouit moins de ce que l'on obtient que de ce que l'on espère. Et l'on est heureux qu'avant d'être heureux. C'est pour ça que l'esthète qui a compris qu'il ne trouvera jamais le plaisir préfère entretenir l'imagination. C'est ce que fait le séducteur kierkegaardien. Chez Kierkegaard, l'esthète entretient l'imagination parce qu'il sait que la rencontre du réel sera pour lui blessante. Et que donc il faut qu'il tienne en suspens cette possibilité, mais qui restera une possibilité. Et Madame de Volmar, donc le personnage de Rousseau, peut conclure « Le pays des chimères est en ce monde le seul digne d'être habité. » Il n'y a pas un texte plus nihiliste. Et alors là, on tient quelque chose aussi qui me semble important pour la compréhension du plaisir, c'est que le plaisir veut la réalité de son objet. D'ailleurs, c'est la même définition que celle de la foi. Il veut la réalité de son objet. Et c'est ce bon vieux Kant qui l'explique très bien quand il dit que si l'on est charmé par le chant d'un oiseau, on est tout déçu si on apprend que c'est un petit malin qui, avec un appeau, a imité le chant des oiseaux. Tout d'un coup, on lui trouve beaucoup moins de charme. Donc le plaisir veut la réalité de son objet. Il y a un acte de foi dans le plaisir et qui fait que précisément je ne peux pas m'étancher à des plaisirs imaginaires. On ne veut pas être trompé, mais on veut être surpris, ce qui est très différent. Et il n'y aurait aucun plaisir à être trompé. Alors, si on a bien parcouru ces aspects, y en aurait d'autres qu'on pourrait énumérer. Si vous m'aidez tout à l'heure, on pourra améliorer les analyses. Mais donc à ce moment-là, je pense qu'on est en mesure de répondre à la question de la signification du plaisir et de le définir au fond comme la rencontre du sens et de la sensation. Le plaisir, c'est une sensation qui a du sens. Qui a du sens, c'est-à-dire qui unit le réel et les possibles. Puisque le sens, c'est pour un réel être lié à des possibles. Et que le plaisir est justement ce recueil de la signification. C'est ce qu'éprouve l'artiste, c'est ce qu'éprouve le peintre, le poète. Il fait l'épreuve de cette rencontre sensationnelle, toute sensation est sensationnelle. Il fait l'épreuve de cette rencontre sensationnelle de la signification à travers la sensation. Et c'est ce qui fait qu'il y a une dimension, alors on peut dire métaphysique, de l'expérience du plaisir, dans la mesure où on peut tenir, enfin moi je suis, et c'est ce que j'ai dit précédemment permet de le comprendre, on peut tenir qu'il n'y aurait pas de plaisir dans un monde vide de sens, ou que si quelqu'un faisait l'expérience du plaisir dans un monde vide de sens, cette expérience aurait quelque chose de désespérant. C'est d'ailleurs Camus qui nous le dit avec beaucoup de profondeur, comme d'ailleurs tout ce qu'il dit. Dans le texte Tipaza, Camus dit que la beauté du monde est tragique pour celui qui pense que ceci est vide. Il n'est pas possible que cette expérience ne soit pas une rencontre du sens. Il n'est pas possible qu'elle renvoie simplement à une espèce de tromperie. Il n'est pas possible que le plaisir soit trompeur. Il n'est pas possible que la beauté soit trompeuse. Et donc l'expérience du plaisir est dans sa plénitude une expérience métaphysique. Il est impossible d'éprouver le plaisir, de recevoir le plaisir dans un monde qui serait métaphysiquement vide. Pourquoi ? Parce que les descriptions que j'ai faites antérieurement vous permettent de comprendre qu'il y a une analogie, plus qu'une analogie, entre la grâce et l'expérience du plaisir. Vous voyez, ce que je disais sur la dialectique de l'attente et de la surprise, elle est analogue à la relation à la grâce, qui suppose la disposition, qui suppose l'attente, une attente qui peut être remplie, qui ne viendra pas malgré moi, mais qui ne viendra pas par moi, qui ne peut pas être instrumentalisée, qui ne peut pas être prévue, qui ne peut pas être planifiée, qui cependant suppose qu'il y ait chez le sujet une disposition qui l'ouvre à ce qui va survenir dans cette attente, ce qui survient de cette attente mais n'en résulte pas. Quand j'étais un jeune imbécile, avant d'en être un vieux, j'étais intrigué par le fait qu'on ne se voit pas s'endormir. C'est quand même agaçant. Alors, pendant un mois, j'ai cherché à me voir m'endormir. J'ai passé un mois épouvantable. C'est absolument impossible. Or, le sommeil, c'est une très belle réalité parce qu'on commence par faire semblant de dormir. Et à force de faire semblant de dormir, on dort. C'est comme le travail. On commence par faire semblant de travailler. Et à force de faire semblant de travailler, on travaille. Et je pense que vraiment, cette coïncidence du volontaire et de l'involontaire, dans ce moment de grâce qu'est le plaisir, nous livre quelque chose de tout à fait analogue à la grâce. Donc, tout à l'heure, je disais cadeau. Maintenant, on peut expliciter ça. Alors, cela veut dire que il y a une expérience de la liberté au cœur même de la sensibilité. Et ça, c'est ce qui justifie, c'est ce qui nous permet de comprendre l'idée de la beauté. La beauté est une expérience de la liberté au cœur même de la sensibilité. Alors, nous savons assez facilement qu'il y a une expérience de la liberté dans la raison. Parce que là, nous savons assez facilement que la raison doit s'arracher à ses habitudes, à ses illusions, à ses préjugés, et que l'ascèse de l'exercice de la raison est vraiment une ascèse émancipatrice de toutes nos paresses, de toutes nos servitudes, et donc il y a la pensée est une expérience, est l'expérience humaine de la liberté la plus évidente, et c'est la raison pour laquelle il n'est pas déraisonnable, pour le coup, de définir l'homme comme un animal rationnel qui fait l'expérience de sa liberté par l'exercice même de sa raison. C'est ce que Descartes nous a appris. L'expérience de la raison est inséparable d'une expérience de la liberté. On sait qu'il y a l'expérience de la liberté dans la volonté. On sait assez bien. Et que dans l'exercice de la volonté, je peux là aussi m'émanciper de mes habitudes, de mes inerties, dans une espèce de combat contre soi-même qui me permet de surmonter mes hésitations, mes ambiguïtés, mes perplexités, dans une décision où le sujet fait son unité, en traversant les crises qui sont celles de la décision, mais en unifiant son être dans un vouloir. Donc il est assez simple de penser qu'il y a une expérience de la liberté dans la volonté. On pense plus difficilement qu'il y a une expérience de la liberté dans la sensibilité. Chose éminemment vulnérable et indisponible, que je ne peux pas, sauf si je fais du yoga, commander à ma disposition. Je ne peux pas. Alors, du coup, l'homme de l'opinion a raison. Il dit, mais on ne peut pas commander à ce plaisir, on ne peut pas commander à ces peines, on ne peut pas commander, etc. C'est le point fort de l'homme de l'opinion. Sauf si on perçoit qu'il y a, par le plaisir, au cœur même de la sensibilité, une expérience de la liberté. C'est d'ailleurs ce que saint Augustin nous dit. Quand je transcris à peu près ce que dit saint Augustin, qui dit justement que le plaisir nous montre qu'il y a une expérience de liberté dans le sensible, parce qu'on ne peut pas contraindre un plaisir. C'est le problème du violeur, c'est le problème de tout ce que... Vous savez, actuellement, il y a en France des débats sur le harcèlement sexuel, et alors il y a une actrice porno qui a dit « Mais après tout, on peut bien jouir dans un viol. » Alors, saint Augustin a dit « C'est pas grave. Mais en fait, elle se trompe, la pauvre femme. Et elle confond justement ce qui, à la rigueur, peut être un phénomène mécanique et le plaisir. Car à supposer qu'il y ait jouissance, ça ne sera pas un plaisir. Et ça sera précisément une détresse d'autant plus grande qu'il y aurait jouissance. Quand je mange le plat le meilleur du monde, mais avec ma belle-mère, passe très mal. Et la caresse que je reçois de quelqu'un que je hais, elle passe très mal. Elle ne passe pas. Donc il est complètement illusoire de s'imaginer que le plaisir serait dans une réaction chimique ou charnelle qui ferait que par une quelconque transformation de notre peau, nous pourrions obtenir une jouissance. Si éventuellement une telle jouissance apparaissait, elle ne serait certes pas un plaisir, mais au fond, la plus grande détresse. Ces questions de harcèlement sexuel m'ont conduit à relire un texte que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est dans les 5 psychanalyses de Freud, le cas de Dora. La pauvre Dora, vous le savez, est une jeune fille qui, 14-15 ans, s'est fait embrasser dans une encoignure de porte par l'ami de son père. Aussitôt, elle a fui. Il se trouve en outre que l'ami de ce père était le mari de la maîtresse du père, et le père avait quelque peu encouragé la relation. Et la conclusion de Freud est extraordinaire. On se demande comment on peut encore lire des pages comme ça, comment on peut encore les publier. Il dit, puisque Dora a fui le plaisir qu'elle éprouvait, elle est hystérique. Et donc on va la soigner, avec la complicité du père, qui va expliquer à sa fille qu'elle est malade, puisqu'elle a fui ce brave homme qui l'enlaçait de manière sympathique dans une poignure de porte. Et donc on voit bien l'incompréhension de ce que peut être le plaisir chez Freud, mais parce que précisément chez Freud, le plaisir rate toujours son objet, car il est toujours un plaisir trompé, il n'est que la recherche d'une satiété. Et à ce moment-là, il vaut mieux être mort, c'est d'ailleurs ce qu'il conclut.
On voit bien la distinction entre plaisir et jouissance.
À supposer que il y ait des réactions organiques semblables à celles du plaisir qui accompagnent un geste. On peut éventuellement supposer que ces réactions organiques ressemblent au plaisir et donc procurent, alors je dis jouissance, moi je veux bien retirer le mot.
Un orgasme. En fait, c'est pas une supposition, c'est avéré. L'orgasme, oui. Dans le viol, on a des témoignages.
Voilà, donc ça. Mais,
Et Saint-Augustin en parle aussi.
Et Saint-Augustin en parle justement à propos des femmes violées à l'occasion du sac de Rome et disant que ça n'est pas un péché d'éprouver un orgasme dans une condition aussi épouvantable. Voilà, donc on peut très bien imaginer qu'il y a une relation organique, mais quand cette relation organique est dissociée de sa signification, elle est d'autant plus triste. Et donc elle cesse, en fait. Donc, moi, je n'ai pas de dictionnaire sur cette affaire. On peut, donc je propose jouissance et plaisir, on peut proposer, je ne sais pas. Enfin, ce qui compte, c'est que le plaisir n'étant rien résumable à une réaction organique, il est ce qui fait sens. C'est la raison pour laquelle j'ai sous-titré mon petit livre « Ce que le cheval noir veut dire à son cocher ». Parce que si vous rencontrez des gens qui vous disent que Platon est dualiste, qui vous disent que Platon est un ennemi du corps, vous les renvoyez à l'école. Je raconte le récit du Phèdre, le beau mythe du Phèdre que nous rapporte Platon. Il dit, voilà, l'âme de l'homme est comparable à un attelage avec un cocher et un cheval bien taillé, blanc, vif et noble, et puis un cheval noir, massif, rugueux et brutal. Et où vous reconnaissez nous, thumos, epithumia, l'esprit, l'énergie, les instincts. L'attelage est en présence d'un beau corps. Attiré par la beauté de ce corps, les chevaux se précipitent vers le jeune homme dont la beauté resplendit. Et alors le cocher retient l'attelage. Pourquoi le cocher retient-il l'attelage? Lisez Platon. Feriez mieux de lire Platon. Le cocher retient l'attelage parce que la vision du corps de l'éphèbe lui fait penser à la beauté idéale. Comme ça lui fait penser à la beauté idéale, il lève la tête. Comme il lève la tête, il se penche en arrière et ça retient l'attelage. C'est une leçon morale fondamentale. Ce n'est pas en bridant les instincts qu'on les domestique, mais c'est en les ordonnant leur signification. Et donc, si le cocher retient l'attelage, c'est parce qu'il se renverse parce que la beauté nous fait lever les yeux. Et donc, ce combat dure un certain temps, parce que les chevaux se débattent. Le cocher s'en renverse d'autant plus, jusqu'à ce que le mort déchire la bouche des chevaux et les ensanglante. Et lorsqu'enfin les chevaux sont apaisés, il est bien possible, dit Platon, qu'à ce moment-là, les amants s'étendent l'un à côté de l'autre. Et alors, le cheval noir aura quelque chose à dire à son cocher. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que Platon est un ennemi du corps, vous le faites retourner à l'école. Et parce que précisément ce que Platon nous dit, c'est que jusqu'au cœur de la sensibilité, jusqu'au plus profond de la sensibilité, il y a une expérience de l'esprit et il y a une expérience de la liberté. Et cette expérience de la liberté est telle que le cheval noir peut apprendre quelque chose à son cocher. Que le cocher, au fond, anticipait quand il renversait la tête en arrière, mais qui était déposé de manière prématurée dans l'impatience du cheval noir. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une expérience de la liberté au cœur même de la sensibilité, et c'est cette expérience qui est celle du plaisir. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le plaisir nous fait longer la limite où la liberté se change en destin. L'alcoolique connaît la limite où la liberté se change en destin. Le drogué connaît la limite où la liberté se change en destin. Et au fond, ça ferait moi, je ne suis pas théologien, je suis beaucoup trop incompétent pour m'entretenir de choses pareilles, mais je crois que ça ferait une assez bonne définition du péché que de dire le péché, c'est la liberté devenue destin. Et de telle sorte que le sujet devient, en quelque sorte, prisonnier de soi. Tous les plaisirs que nous éprouvons, celui de marcher, celui de boire, celui de jouer, celui de s'embrasser, celui de manger, celui de travailler, celui de penser, etc. Tous les plaisirs que nous éprouvons sont au cœur de cette expérience d'une liberté que l'on révèle en comprenant que l'on ne peut pas contraindre à un plaisir. Alors, je résumerai en disant que dans l'expérience du plaisir, nous nous faisons objet pour nous affirmer sujet. Nous nous faisons nécessité pour nous affirmer liberté. Et que le déploiement de notre liberté est dans sa perfection au moment où nous mimons quelque chose qui serait de l'ordre de la nécessité. C'est pour ça que Socrate nous dit, voilà, je ne peux pas avoir plaisir à boire si je n'ai pas soif. Avoir soif, c'est de l'ordre de la nécessité. Donc il faut que je me fasse objet, il faut que je me fasse nécessité pour découvrir dans le fait de se faire nécessité la réalité même de la liberté. Ça me fait toujours penser à quelque chose que font les pères de famille, et c'est interdit. Les pères de famille aiment prendre les enfants et les jeter en l'air. Et les gosses, arrivés en l'air, tous sont tout contents. Et donc, ils les traitent comme des objets. Alors, effectivement, si à ce moment-là, le père se met à répondre à son téléphone, la situation devient critique. Mais justement, le sens du geste, c'est « je te jette comme objet, je te récupère comme sujet ». Et au fond, tous les gestes de tendresse, tous les gestes, même la mère qui donne à manger, les amants qui s'enlacent, c'est cette dialectique de « je m'abandonne à toi comme objet, libre à toi de me rendre ma qualité de sujet ». C'est ce que dit Anna Karénine quand elle s'abandonne au bras de Vronsky. Elle dit maintenant, en fait, elle lui dit en russe et dans des termes plus élégants que moi, mais elle lui dit au fond maintenant, je m'abandonne dans vos bras, libre à vous d'être un salaud. Manque de chance, c'en est un. Enfin, pour ceux qui n'ont pas encore lu Karénine, Anna Karénine, je ne voudrais pas quand même gâcher le suspense. Voilà, et donc, cette, alors on peut dire ça autrement, je me fais nature pour m'affirmer liberté, je me fais objet pour m'affirmer sujet, je me fais nécessité pour faire transparaître ma liberté. Voilà pourquoi, donc, à la question « quel est le sens du plaisir ?», on peut répondre... Enfin, moi, je réponds pour ma part que il est l'expérience bienheureuse de la surabondance du sens sur la sensation et l'expérience bienheureuse de la dépendance. Au fond, le plaisir, c'est la dépendance bienheureuse. Nous jouissons de notre propre dépendance. C'est ce que nous dit Lévinas. Et c'est la raison pour laquelle ça ne peut jamais prendre la forme d'un scénario à la Sade que je dominerai, d'une intrigue que je combinerai, puisque il y a toujours cette forme d'abandon qui fait que c'est en par l'expérience même de ma dépendance que je rencontre cette grâce que j'évoquais et qui révèle que je suis libre jusque dans mes sensations les plus muettes, jusque dans mes sensations les plus profondes, les plus imperceptibles, en quelque sorte indiscernables, et que la chair elle-même participe à la vie de l'esprit, non sans combat. C'est la vérité du dualisme, car il y a une vérité fondamentale du dualisme. Mais en même temps, dans l'assomption parfaite de ma condition charnelle, je vis cette expérience de la liberté. Je vous remercie de m'avoir supporté.
Une fois n'est pas coutume, je vais me faire l'ami de Rousseau, mais à travers Marcel Proust. Parce que vous avez parlé d'une dialectique de la réalité et de la fiction, mais là c'était plus une dialectique, parce que la fiction a été presque d'emblée rejetée, et il n'y avait que le la plaisir. Voilà. Alors, justement, pour revenir à une dialectique, Marcel Proust dit, au fond, que c'est dans le souvenir et même dans l'écriture qui ressaisit le passé que se trouve le plaisir le plus grand, voire même la présence la plus grande de la chose. Souvent dans le présent, j'ai le nez dans le guidon, mais d'une certaine façon, la fiction et l'imaginaire, non pas comme un imaginaire de ce qui n'est pas, mais un imaginaire qui se porte au secours de ce qui a eu lieu, d'une réalité, permet de l'envelopper davantage, de l'intérioriser davantage. Et c'est ce que font les poètes, hein, quand ils chantent le corps de leur bien-aimé. Il y a un va-et-vient entre la fiction et la réalité, parce que la chose advient à l'imaginaire, à la parole, et à travers tout un système de métaphores, d'images, hein, bien sûr. Et c'est là que la chose est encore plus présente.
Oui, mais à ce moment-là, ça serait plus la mémoire que l'imaginaire. C'est-à-dire...
C'est l'imaginaire, mais ce n'est pas l'imaginaire de ce qui n'est pas.
Voilà, ce n'est pas un imaginaire projectif.
Voilà, c'est ça.
C'est plutôt ce qui manifesterait, et c'est... Merci de me permettre d'améliorer l'analyse. Au fond, si vraiment je peux éprouver une joie à la reviviscence du vécu, ça n'est pas parce que ce vécu est à ma disposition que je peux le commander. Puisque chez Proust même, je ne le commande pas, je ne veux pas, je vais pas commander le retour d'un souvenir. Mais cette reviviscence est un plaisir parce que, comme tout plaisir, pour le coup, je vais soutenir ma thèse, il manifeste l'unité de ma vie. C'est pour ça que si c'était seulement, alors c'est sans doute ambigu chez Proust, si c'était seulement le retour mélancolique à un passé, ça ne manifeste pas l'unité de ma vie. Mais si au contraire, ça manifeste la présence de ce passé, effectivement, l'acte de la mémoire est la manifestation de ce que ma vie est une, donc il y a quelque chance qu'elle ait du sens.
Et c'est ça, c'est dit que la plénitude de la présence peut n'avoir lieu qu'après coup. Et que justement, peut-être même aussi que fait partie de la béatitude, par exemple, la ressaisie aussi rétrospective de la vie et de l'unité de la vie. C'est pas comme si on passait à une joie divine, etc. C'est aussi que toute mon histoire, tout d'un coup, s'éclaire et ressaisie de telle sorte que les choses deviennent plus présentes que lorsqu'elles avaient lieu.
Il faudrait trouver quelque chose de mieux que mémoire.
Oui.
Reviviscence, c'est que vous avez dit quoi ? Reviviscence, c'est peut-être mieux.
Proust emploie le mot recréer. Hein, carrément.
Oui. Parce que les photos que je garde du passé éloignent le passé. Je dis, ah, tiens, la mode était bizarre. Ou la photo a jauni. Donc, en fait, cette reviviscence, elle donne son unité au sujet, une espèce de... d'anamnèse. D'anamnèse. Et on revient à mon cher Platon. De réactualisation.
Non, mais la réminiscence, c'est pas une réactualisation, parce que c'est vraiment une.
Parce que la réminiscence,
c'est l'actualisation.
La réminiscence, c'est pas la réminiscence du passé seulement, la réminiscence de l'éternel, chez Platon.
C'est pas directement le plaisir, par exemple, dans la liturgie, dans la messe, donc, c'est bien à la fois c'est un moment et une actualisation, donc c'est peut-être le seul lieu où il y a les deux.
Bien sûr. Bien sûr. La liturgie est le seul lieu où notre corps, pleinement, et soit pleinement présent. Et là encore, c'est Platon. Dans les lois, il faut vivre liturgiquement. Et pour danser, une belle danse sous le regard des dieux.
Alors,
Hors de borne, je ne sais pas, mais dans l'expérience du plaisir, il y a toujours une résonance sensible liée à l'extériorité d'un objet, à une réceptivité. Je disais dépendance bienheureuse. Alors il est vrai qu'en cela, le plaisir fait signe vers la joie. Et c'est la raison pour laquelle il peut y avoir des plaisirs tristes quand précisément le signe ne renvoie plus à rien et qu'il devient comme des mots usés, des mots qui n'ont plus de sens. Mais l'expérience de la joie me semble-t-il, comporte davantage celle de l'action. Non pas dans le seul fait de réussir cette action, d'avoir atteint le but que l'on s'est donné, mais dans le fait que l'action est toujours une manière de s'ébrouer des fatalités et de réaliser donc sa libération. Alors, en cela, le plaisir et la joie sont liés, c'est-à-dire qu'il me semble que, comme je viens de le dire, que le plaisir est un signe de la joie. Mais en revanche, on peut concevoir que l'expérience de la joie soit simplement ce qui accompagne l'acte. Et en tant que il est une, alors en tant qu'il est une construction, une œuvre, en tant qu'il est une œuvre.
La joie serait du côté d'une fécondité, en fait.
Oui.
Fécondité du plaisir.
Voilà.
Alfred.
Vous avez parlé au tout début de fascination pour la mort dans, liée au plaisir. Alors, objectivement, vu de l'extérieur, je comprends qu'on puisse faire ce lien. De l'autre côté, dans l'expérience du sujet conscient, par exemple, si je fume deux paquets par jour ou je bois beaucoup trop, consciemment, je ne penserai pas à cette fascination, j'aurais pas une fascination consciente pour la mort. Vous pouvez qu'il reste.
Pas sûr. Parce que dans la volonté de s'étourdir, dans la volonté de s'éclater, dans la volonté de s'oublier, il y a quelque chose d'analogue à une expérience de la mort. Et ce que je dis là n'est pas du tout original, c'est ce que disent les poètes. Tout à l'heure, j'évoquais, nous aurons des divans profonds comme des tombeaux. La proximité de la jouissance et de la mort est une chose fréquemment évoquée et qui peut être consciente. Qui peut être consciente. Moi, je suis très frappé, enfin consciente plus ou moins, mais quand même, je suis très frappé du goût pour les choses morbides qui sont liées à des milieux prétendument hédonistes.
C'est la théorie de Bataille, hein, sur l'érotisme. Mmh. L'érotisme est toujours lié à la mort. Bon, la jouissance étant pensée comme petite mort, mais aussi étant du côté même d'une forme de transgression, toujours de profanation. Ça a été vraiment alors, très, très théorisé, mais c'est très problématique. Oui. Ah bah oui. Mais est-ce que c'est un érotisme lié à la mort ? Ou plutôt, comment la mort se situe là ? Parce que chez Georges Bataille, en fait, il y a l'idée qu'on voit une femme belle, mais ce qu'on veut, c'est dévoiler ses parties par lesquelles elle n'est pas belle. Et donc, il y a toujours cette idée de mise à mort et de transgression, c'est-à-dire d'aller vers l'impur. C'est comme ça qu'il théorise la chose. Hein. Alors, ça correspond à un phénomène qui est réel. La vraie question, c'est l'analyse qu'il fait. Vous voyez, c'est vraiment la vraie question. Comment il faut penser cette chose-là Or, dans le quantique des quantiques, c'est pas exactement cela. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'épouse, elle passe par des pertes, des morts, mais c'est toujours polarisé vers une joie, une renaissance, une résurrection et une fécondité. Et même une œuvre commune, hein, la fécondité de la vigne, etc. Donc c'est bon, mais ça serait un trop long départ. J'en parlerai peut-être un peu dans le cours sur le bout, justement, de Bataille. Oui.
C'est une question par rapport à la dialectique de la surprise et de l'attente. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, parce que je suis. Éprouver du plaisir alors même qu'il n'y avait pas forcément d'attente et qu'il n'y avait que de la surprise. Par exemple, je ne sais pas, avoir un anniversaire surprise. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a toujours une attente?
L'anniversaire surprise, oui.
Oui, il y a une attente là. L'anniversaire surprise, il est attendu.
Oui, enfin, d'autres expériences où même votre ami est russe. Est-ce qu'il y a que le choc
je vais essayer de mieux l'expliquer. À propos de cette relation de l'attente et de la surprise, j'ai dit que le plaisir était une expérience du présent, c'est-à-dire de la plénitude du temps. Et c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, il suppose cette disponibilité à ce qui va arriver. Et c'est cette disponibilité qui est remplie, en quelque sorte, au-delà de notre espérance ou au-delà de notre commande, par la surprise. C'est pour ça que j'ai insisté sur la différence avec l'instant, du moins au sens esthétique du mot. Parce que l'instant, au sens esthétique du mot, il est fait de l'oubli pour hier et l'oubli pour demain. Et donc cet instant au stade esthétique, il consisterait à chasser toute pensée du lendemain, à chasser tout souvenir et à se trouver dans une espèce de pure ponctualité, en fait insaisissable. Alors que la qualité de quelqu'un qui est présent, c'est que justement il n'évince pas le passé ni ce qui va venir, mais il le recueille par la disposition de l'attente. Et donc si il n'y avait pas, je tiens, puis ça se voit assez bien, que s'il n'y avait pas cette disposition de l'attente, il serait impossible qu'il y ait une quelconque expérience du plaisir. Si vous faites la malheureuse expérience de tenter sans préparation de faire entendre une grande musique classique à un auditoire d'élèves qui n'en veulent pas, vous pouvez toujours essayer, hein. Ça ne marchera pas. Le vrai problème de l'enseignant, c'est de créer cette disposition à l'attente. Et tant que je n'ai pas créé la disposition à l'attente, je ne vais pas jeter la musique ou l'œuvre à la figure du gamin. D'ailleurs, les cadeaux, c'est comme ça que ça se fait. C'est pour qui ? Qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à une paire de lunettes. et enseigner, dans la mesure où quelquefois un enseignement réussit, c'est qu'il procure cette dialectique. Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça va devenir ? De telle sorte que celui qui écoute a envie de répondre et qui peut se dire « Ah, j'avais trouvé » ou « Je trouve encore mieux que ce que j'avais attendu ». Donc je crois que vraiment c'est inséparable de l'expérience du plaisir, même si c'est de manière imperceptible.
Alors, Justine ?
Moi, c'est lié avec ce que tu disais, parce que tu expliquais que si on veut faire écouter une musique classique à des jeunes qui n'en veulent pas, ils ne pourront pas avoir de plaisir. Ils n'ont jamais écouté une musique comme ça et que être surpris et avoir du plaisir parce qu'ils n'y connaissaient pas avant.
Non, non, je vous conseille de voyager. Non, c'est pas un vouloir. C'est pas un vouloir au sens où le plaisir ne résulte pas de notre volonté, mais en revanche, il requiert une disponibilité. Et le problème de la pédagogie, c'est l'indisponibilité des auditeurs. Et donc, l'œuvre du pédagogue, c'est de créer les conditions de cette disponibilité. Il ne faut pas s'imaginer que parce que je vais leur passer du bac, ils vont être bouleversés.
Laurence, Laure. Juste, je t'explique parce que c'est en fait, je suis en contact toutes les semaines avec une journaliste de Paris Notre-Dame qui s'appelle Laurence et qui à chaque fois me demande mes articles. Alors c'est pour ça que ça me met à ça. Mais je suis désolé, hein. Non, parce que je fais ça depuis.
Un éclairage sur le plaisir comme moyen, comme fin, dans le partage de la
C'est ni un moyen ni une fin, c'est un fruit. Il vient par surcroît, c'est ce que dit ce bon vieil Aristote. Et donc on ne peut pas le... Ce n'est pas un moyen. C'est pour ça qu'il n'y a pas non plus de pédagogie par le plaisir. Il y a des pédagogies en rendant disponible au plaisir. Mais non, c'est un fruit. C'est ce qui s'ajoute à l'acte en manifestant sa perfection, mais qui ne résulte pas du processus, ni n'en est le but.
Si c'était une fin, si on vise vraiment le plaisir, bon, d'une part, il n'y a plus personne devant nous, puis c'est comme ça qu'on le manque, puisque il advient. Enfin, si c'était, par exemple, si je reprends les catégories, ce serait le pur résultat de l'attente. Enfin, c'est pas ce qu'il peut être, justement. En revanche, le plaisir comme moyen, c'est une thèse qui a été extrêmement développée de manière très intelligente, d'ailleurs, par celui qui a beaucoup critiqué Jean-Luc Marion, mais qui, pour moi, est un auteur très intéressant, par Malebranche. Je ne parle pas de Spinoza, qui est effectivement très con. Parce que Jean-Luc Marion déteste Spinoza. Voilà, qui n'en rate pas une. Pour ce qui est de Malebranche, il a fait cette remarque: on pense toujours que le plaisir est égoïste, alors qu'en réalité, le plaisir, quand on est dans un état de plaisir, on se donne. Et qu'il voit même le plaisir comme la condition du don, quasiment. Et ça, c'est une chose très intéressante, c'est-à-dire qu'on ne se donne pas pour jouir ou pour être dans le plaisir, mais le plaisir est là, et quelqu'un qui prend du plaisir, il se livre plus totalement à l'activité qu'il fait, plus totalement à l'autre, plus totalement... Et donc ça, c'est très intéressant. Alors, je ne peux pas dire qu'en soi, c'est un moyen. Enfin, il a essayé de penser quelque chose comme le plaisir, comme n'étant pas ce qui nous enferme et ce qui nous replie, mais au contraire, ce qui nous livre au sens, un peu pour reprendre votre expression. Et ça, c'est dans son traité de l'amour de Dieu, en fait, qu'il y a des passages très, très, très intéressants là-dessus.
Ah oui. Moi, c'est par rapport à l'attente surprise. Du coup, vous avez bien montré qu'il faut une attente pour obtenir. Mais c'est plutôt par rapport à la surprise. Là, vous venez de dire aussi que l'attente pure, ça ne fait pas forcément plaisir. Pourtant, par exemple, quand on regarde la scène préférée de notre film qu'on a vu 60 fois, tout ça, on a le plaisir fou à la voir.
Parce qu'il
n'y a aucune surprise. On l'a absolument par cœur.
Ah, bah, si. C'est là. Oui, il y a des films que j'ai vus. 60, je ne sais pas, mais plus de 20 fois, il y a une surprise à chaque fois. Le jour où il n'y aurait plus de surprise, je cesserais de le regarder, je le revendrais. Et c'est justement parce que je ne cesse de découvrir quelque chose de nouveau.
Il n'y aurait pas un plaisir vraiment intéressant à la répétition.
Comme les enfants qui demandent qu'on leur raconte tout le temps la même histoire.
Oui, c'est ça.
Et semblent vouloir revenir à l'identique. Mais en même temps, à chaque fois, ils sont à nouveau surpris. Et à chaque fois que l'on tourne la page ou à chaque fois qu'on raconte le même épisode, ils sont traversés de la même inquiétude, de la même peur, de la même joie. C'est-à-dire que le récit qu'ils demandent, tout récit crée ces situations d'attente. Et ce qu'ils veulent revivre, c'est ces situations d'attente. Et ils n'auraient pas plaisir à la pure répétition s'il n'y avait pas ces situations d'attente dans le récit même. Et donc, quand on tourne la page et qu'on sait ce qui va suivre, en même temps, avec gourmandise, on ranime la même inquiétude, les mêmes interrogations qui nous donnent des raisons de tourner la page, sinon on ne tournera pas.
On peut savoir ce qui va se passer et en même temps, sa réalité déborde notre anticipation.
Par exemple, un poème qu'on sait par cœur. Moi, je suis investi de Rimbaud, je connais à peu près tout Rimbaud par cœur. Mais en le redisant, je le... Enfin, je ne sais plus bien si c'est... D'ailleurs, je dois en inventer.
C'est vous l'auteur, en fait, des illuminations.
Oui, mais on l'a trouvé. Non, je pense que même, il n'y a pas de... c'est justement une des erreurs de Freud d'avoir pensé qu'il puisse y avoir un plaisir de répétition. Mais qui justement fait la proximité d'Eros et de Thanatos. Alors que même dans la reprise, il n'y a pas de répétition.
Une reprise qu'une répétition, c'est la différence, hein, la reprise suppose à la fois la répétition et en même temps la différence. Parce que ce qui est dit dans les psaumes qu'on répète par exemple, c'est toujours un excès, enfin c'est toujours un excès par rapport à ce qu'on le redécouvre sans cesse. Bonne intervention. Et puis, j'adore.
C'est désarmant. Je ne sais pas que vous dire. Je ne sais pas.
Non, mais elle est bizarre, Jeanne. Tout le monde le sait. Mais un film, c'est un 2D. C'est pas une... Là, la question, c'est la question d'une pure projection qui serait. Mais en fait, moi, je comprends. En fait, je comprends ce que ça veut dire. C'est pas nous qui, quand on imagine, c'est pas nous qui produisons simplement des images, ce sont des résultats, mais des images qui viennent en nous peuvent aussi nous surprendre, parce qu'elles sont fondées sur des réalités extérieures, et sur, donc à la limite, voilà, si on devait retenir votre formule, enfin bon, c'est ça.
Parce que dans ce cas-là, c'est plutôt bien réaliser les sens.
Oui.
On réduit la sensation de chaleur qu'on avait, qu'on n'a pas.
Mais c'est là où on retrouve cette idée que l'imagination voilà, a une aptitude à faire revivre les choses et à les faire revivre intérieurement. Et plus intérieurement qu'au moment parfois où on les vivait. Enfin, moi, je ne cesse de vivre la joie que j'ai à pouvoir retracer en le narrant ce que je peux expérimenter. Cette joie donc proustienne, enfin, je vois, c'est comme si la réalité n'était achevée que sur un mode rétrospectif. Et ça, c'est pour ça que moi, je ne suis pas un privilège du présent, toute une métaphysique, on a dit classique, mais que moi, j'en suis pas tout à fait assuré. Il y a vraiment la force de la reviviscence du passé, qui est d'ailleurs la force des vieillards. Hein. Et puis aussi, voilà, le fait que ce qui s'est passé en plus, le présent qu'on a vécu est remis en perspective, comme vous le disiez, dans l'unité de la vie. Voilà. Enfin bon. Vous vouliez dire quelque chose, Pascal, encore hein? Pauline.
Vous avez dit tout à l'heure, je crois qu'il y avait une forme de liberté dans la sensibilité. Et j'ai compris que c'était parce que la sensibilité ne réagit pas à un stimuli mécanique, mais qu'elle est indisponible, et donc c'est là que se dégage une forme de liberté. Et après, en fait, j'ai pas compris l'articulation avec le fait que vous avez dit qu'on se faisait objet pour être rendu sujet. Et du coup, je comprends le mot abandon dans cette forme de liberté. Mmh. Je comprends moins la dépendance vis-à-vis de l'extérieur si la liberté se manifeste comme l'indépendance vis-à-vis d'un stimuli. Enfin,
oui, donc il y a abandon, ça veut dire je dépends d'une réalité extérieure, je me place dans la dépendance à cette réalité extérieure pour y retrouver une forme de liberté. Donc vous avez tout à fait raison, vous expliquez mieux que moi ce que j'ai essayé de dire. Donc ça veut dire que ça n'est, le plaisir n'est pas la réaction à un stimulus de manière mécanique produirait une réaction et donc cet abandon fait justement que le stimulus n'agit pas comme une cause mais comme une réponse.
Et comme le lieu dans lequel se manifeste. Enfin,
comme ce à quoi je me suis rendu disponible. Et qui manifeste la surabondance de la réalité par rapport à mes projections, prévisions. C'est pour ça que j'ai commencé en évoquant la tentative de la jouissance insensible. Parce que celui qui voudrait éprouver des jouissances insensibles, il voudrait jouir sans être dépendant. Or, justement, il n'y a pas de séparation de l'expérience de la liberté et de l'expérience de la dépendance dans le plaisir. Elle n'est totalement fictive ou invraisemblable que dans la mesure où vous vous fondez sur des probabilités et quelque chose qui par ailleurs serait prévisible. Donc l'invraisemblable fait toujours signe vers le vraisemblable, l'imprévisible vers le prévisible. Et donc la fiction qui me transporterait dans un monde différent du nôtre continuerait de faire allusion à notre monde. Sinon, on jouirait même pas sa différence.
Puis je suis même pas sûr qu'on puisse, enfin, ça puisse être invraisemblable. C'est-à-dire, ça peut être, enfin, pas vrai, mais. Parce que dans toute, quand un auteur, il y a toujours une convention avec un auteur tacite. Hein, on sait qu'on voit un film de science-fiction et on sait qu'on pourra aller vers une forme d'irréalité. Mais après, il doit y avoir toujours une cohérence interne par rapport au genre littéraire et donc une vraisemblance qui est liée à la convention. Dès que quelqu'un sort, par exemple, de cette vraisemblance, ça nous choque. Enfin, c'est très important. Même si, il y a même une vraisemblance dans la féerie, par exemple. Il y a quand même des conventions de féerie. Alors c'est vrai, chez les frères Grimm, parfois, ça va dans des trucs incroyables. Ils ont une capacité d'invention et de rebondissement un peu étrange. Mais malgré tout, il faut qu'on retrouve, enfin qu'on retombe sur ses pattes à un moment donné. Il y a une cohérence.
Mais s'ils se retrouvent. S'il se retrouve, c'est qu'il y a bien une situation qui avait un sens antérieurement. Même s'il se retrouve par hasard.
Et puis c'est pas invraisemblable, c'est l'espérance même, l'objet de l'espérance. Oui, Marie. Ça y est, plus personne ne parlera après toi, c'est ce que tu voulais dire. Bon.
J'ai J'ai pas compris votre question.
Quand on souhaite faire plaisir à quelqu'un, c'est possible que cette personne est disponible.
Alors ça, c'est un aspect. Cette question est difficile. C'est l'aspect que je n'ai pas abordé, mais qui, au fond, est une autre manière qui, à mon avis, nous conduirait aux mêmes conclusions. C'est la difficulté de faire plaisir. Parce que, justement, ça supposerait de pouvoir dire de quelqu'un que je le connais assez pour pouvoir lui faire plaisir. Alors, heureusement, coup de peau, de temps en temps, ça marche. Mais, au fond, ça n'est jamais assuré. Ce qui fait que celui qui tente de faire plaisir est dans la même dépendance, dans la même insécurité que celui qui fait l'expérience du plaisir. Parce que tenter de faire plaisir, c'est aussi s'avancer et prendre le risque de se rendre soi-même vulnérable par la volonté de faire plaisir. Et donc, c'est au fond une vulnérabilité réciproque. Et je peux aussi bien faire chou blanc. Et je dis, je croyais te faire plaisir. Et puis, parce que précisément, on n'est pas dans l'ordre de ce qui peut s'instrumentaliser. Et donc, j'aurais pu prendre la question sous cet angle, sous l'angle de celui qui veut effectivement faire plaisir. Il est peut-être celui qui est le plus vulnérable. Parce que ça marche ou ça ne marche pas.
Est-ce que ça dépend du coup de la disponibilité de personne ?
Alors ça, je ne sais pas. Ça dépend de l'opportunité du moment. Et de pas seulement de... Ça dépend de la disponibilité de la personne et ça dépend de l'opportunité du moment présent qui est celui qui tombe juste ou pas. Et ça, c'est une question de tempo. À quelques secondes près, ça tombe bien ou ça tombe pas bien ?
C'est tout le drame de la vie conjugale. On veut faire plaisir chacun à l'autre, mais c'est jamais le bon moment. Enfin, c'est pas synchrone.
Les bons amis sont toujours ou trop près ou trop loin, dit Kierkegaard.
Celui qui s'est fait plaisir, c'est celui donc qui... générer une attente chez l'autre,
oui.
Ou alors c'est celui qui se fait attentif à l'attente de l'autre.
Alors celui qui engendrerait l'attente de l'autre pourrait éventuellement être un séducteur et un manipulateur. Donc je préfère la deuxième formulation, celui qui est attentif au désir de l'autre. Mais que sait-on du désir de l'autre ? Pas grand-chose.